Vous écoutez On lit pour vous.
L'intelligence artificielle à l'école, promesse ou piège? Un texte de Nathalie Morissette paru le 12 novembre 2025 dans la presse. L'intelligence artificielle s'est invitée dans nos écoles sans passer par le secrétariat. En quelques mois, les directions ont vu apparaître dans les travaux d'élèves des textes impeccables, soudainement sans faute, des plans de dissertation mieux construits que ceux d'un étudiant de maîtrise et des exposés qui sonnent plus comme ceux de conférenciers professionnels que comme ceux d'un adolescent de 14 ans. Les enseignants, eux, ont dû faire ce qu'ils font depuis 30 ans au Québec, improviser avant que les directives arrivent. Pendant ce temps, les parents, souvent, applaudissent en silence. Leur enfant remet enfin ses travaux. Il réussit mieux. Mais apprend-il vraiment? La question n'est plus de savoir si l'IA sera utilisée en classe. Elle l'est déjà. À la maison, encore plus. La vraie question est de savoir si cette technologie va hausser le niveau de nos jeunes, si elle va plutôt maquiller leurs lacunes ou pire, avoir raison de tout effort d'apprentissage. Parce qu'il faut l'admettre, l'IA a des atouts réels pour l'école. Elle explique un concept de trois façons différentes. Elle reformule en langage simple. Elle corrige instantanément. Elle ne se lasse pas de répéter la règle du participe passé. Elle peut même détecter, mieux que certains tests standardisés, quel élève risque de décrocher. Dans un contexte où les profs sont surchargés, où les classes sont hétérogènes, où les services spécialisés manquent, une IA bien entraînée peut faire gagner un temps précieux. Si on veut que l'enseignant passe moins de temps à corriger et plus de temps à enseigner, c'est un outil sérieux. Et si on veut qu'un élève en difficulté puisse avoir chez lui, à 21h, une explication que le prof n'a pas eu le temps de refaire en classe, c'est carrément une bénédiction. La science sans friction. Mais il y a l'autre versant, celui dont parlent les enseignants et certains parents quand les caméras sont fermées. L'IA enlève la friction. Elle efface le moment où l'élève bloque, cherche, peste, recommence. Or, c'est exactement là que se fabrique l'apprentissage. Le MIT l'a montré dans une étude récente. Plus les élèves délèguent à l'IA les étapes difficiles d'un travail, moins ils développent de persévérance face aux tâches complexes. On veut des jeunes capables de résoudre des problèmes, mais on leur donne un outil qui leur évite d'en affronter. On veut développer la pensée critique, mais on leur offre ce qui peut leur pondre des textes déjà structurés. On veut former des citoyens capables de douter, mais l'IA leur donne des réponses en apparence définitive en 10 secondes. C'est là que le danger devient pédagogique, pas technologique. Une IA qui fait gagner du temps à un prof, c'est un progrès. Une IA qui fait croire à un élève qu'il sait, alors qu'il n'a fait que copier sans poser de questions, c'est une régression. Ajoutons un autre enjeu, l'inégalité. Les écoles privées bien dotées et quelques écoles publiques innovantes testent déjà des plateformes d'IA éducatives, des tableaux interactifs qui différencient les exercices, des systèmes de détection précoce. Ailleurs, on en est encore à partager des Chromebooks. Si on laisse l'IA entrer à l'école par la porte du marché, ceux qui peuvent payer, on va creuser exactement ce que le système québécois essaie de limiter depuis des décennies. L'écart entre les élèves outillés à apprendre avec les machines et ceux qui n'auront connu que des feuilles photocopiées. Au-delà de la triche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on arrête de penser l'IA uniquement en termes de triche. Oui, des élèves l'utilisent pour contourner le travail, mais l'interdiction pure et simple sera un aveu de faiblesse. On ne pourra pas tenir une génération entière loin d'un outil qu'elle a dans sa poche. Il faut plutôt l'amener à montrer son raisonnement. Tu as utilisé ChatGPT? Parfait. Maintenant, explique-moi pourquoi cette réponse est bonne. Montre-moi ta version. Défends ton point. On évalue l'esprit, pas le texte brut. Ensuite, on parle clairement avec les parents. Un enfant qui remet un devoir parfait en 8 minutes n'a pas soudainement débloqué. Un parent qui valorise le résultat sans regarder le processus pousse sans le vouloir son jeune à déléguer. Il faut récompenser l'effort, pas seulement la propreté du rendu. Enfin, on outille les enseignants. Pas dans 6 mois. Maintenant. Les profs ne doivent pas seulement savoir se méfier de l'IA. Ils doivent savoir l'utiliser comme déclencheur de créativité, comme base de départ, comme matériau brut à retravailler en classe. Une IA qui écrit un texte, c'est un prétexte parfait pour apprendre à réviser, à comparer, à détecter les biais. Autrement dit, on reprend la main. L'IA peut aider nos jeunes à réussir. Elle peut même devenir l'assistant pédagogique que le réseau attend depuis trop longtemps. Mais laissée à elle-même, elle fera ce que toutes les technologies font. Elle ira au plus simple, au plus rapide, au plus satisfaisant. Autrement dit, à l'inverse de ce que c'est que d'apprendre. L'enjeu n'est donc pas de savoir si l'IA est bonne ou mauvaise pour l'école. L'enjeu, c'est de savoir si on va la laisser faire l'école à notre place. C'était « L'intelligence artificielle à l'école, promesse ou piège? » Un texte de Nathalie Morissette, paru le 12 novembre 2025 dans la presse.
Le point final, c'est le titre d'une chronique signée Salomé Corbeau, publiée dans Le Devoir du 11 février 2026. En sous-titre, l'Amérique tout entière aura besoin d'une greffe de cœur si elle veut retrouver la paix. Tout a une fin. Alors que nous arrivons à la mi-temps d'un hiver que je trouve particulièrement long et polaire, il est bon de se rappeler que l'hiver, comme tout dans la vie, n'est pas éternel. Il finira par finir, lui aussi, c'est inéluctable. Mais, contrairement aux saisons, dont l'expiration est prévisible, il y a des choses dans la vie dont la fin arrive d'une manière si abrupte qu'on ne peut y voir qu'une tragédie. Le mot « tragédie » lui-même signale l'arrivée imminente de la mort. Ce terme nous vient du grec « tragoidia », qu'on peut traduire littéralement par « chant du bouc ». Ce malheureux bouc, c'est celui qui se lamentait avant d'être sacrifié en l'honneur de Dionysos. C'est à une chronique du tragique que je confie les lecteurs du Devoir cette semaine par le biais d'un petit kaléidoscope de choses ou d'événements qui se transforment dramatiquement en point final. Parfois, il suffit d'une fraction de seconde pour que les efforts d'une vie disparaissent en fumée. La skieuse légendaire de 41 ans, Lindsey Vonn, tentait une ultime participation aux Jeux olympiques après avoir remporté 84 titres en Coupe du monde et 3 médailles olympiques. Elle s'est présentée au sommet de la montagne avec un genou gauche sans ligament croisé antérieur, celui-ci s'étant rompu quelques jours plus tôt. Mais on peut vivre et même skier sans ligament. Je le sais, car j'en ai perdu un aussi. Ainsi, cette championne s'est élancée, frondeuse et déterminée à skier comme elle sait le faire. Sauf que, dès les premiers instants, elle a accroché une porte, ce qui a provoqué une chute spectaculaire dont elle n'a pas su se relever et qui lui a valu une grave fracture. Son parcours de sportive de haut niveau s'est terminé abruptement. L'image de son corps sur une civière suspendue par un câble attaché à un hélicoptère survolant les Alpes italiennes est une image saisissante qui nous rappelle que la vie ne tient parfois qu'à un fil. Cette vie fugace peut aussi quitter le corps de manière fulgurante lorsque l'on subit un infarctus du myocarde et que le cœur cesse de battre. C'est en pleine soirée du Super Bowl que la nouvelle est venue fracasser mon fil d'actualité. Franco Nuovo est mort. Cet homme qui faisait partie de notre vie culturelle depuis presque 50 ans s'est éteint subitement. C'est alors que le cerveau fait cet étrange exercice de se mettre à extraire de son disque dur tous les souvenirs que l'on partage avec le disparu. Les miens m'ont ramené à cette fois où, adolescente, j'avais osé lui parler après un enregistrement de « La bande des six » au Luxe, à des entrevues réalisées dans un studio de la vieille tour de Radio-Canada, ou encore à ce moment où, pour respecter nos racines italiennes, nous avions catégoriquement refusé de manger des raviolis chef Boyardi ensemble, à la soirée est encore jeune. J'aimais bien ce rital au charme d'une autre époque. Il était curieux, brillant, parfois cinglant dans ses critiques, mais il vieillissait comme un bon Chianti Classico Riserva. Il avait développé une belle complexité et la richesse de sa culture lui permettait d'être sensible et pertinent à la barre d'une émission de radio hebdomadaire qui était devenue un doux rendez-vous du dimanche matin. Sa voix s'est éteinte trop tôt, laissant dans le deuil ses précieux collègues, sa famille et ses amis et une pléthore d'auditeurs orphelins. Dans un ordre plus métaphorique, mais pas moins tragique, on a vu disparaître les derniers remparts humanistes du gouvernement Trump. En plein mois de l'histoire des Noirs, le président états-unien n'a pas eu peur de s'afficher comme un être immonde qui ne se cache même plus d'être raciste en publiant sur son réseau social une image de Barack et Michelle Obama en singe. Les dernières miettes de sens commun qu'on pouvait attendre d'un homme qui occupe un poste aussi puissant et névralgique auront été réduites en poussière. Le président a par la suite retiré la vidéo, mais sans jamais pour autant s'en excuser. Ainsi vont les Amériques chantées avec tant d'amour par Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl. Elles le savent toutes désormais qu'elles ont maintenant pour figure de proue une personne abjecte qui n'a pas honte de sa bêtise. Cet odieux personnage continuera, de manière ostentatoire, de mépriser les femmes, les Noirs, les minorités culturelles et les membres de la communauté LGBTQ+. Si seulement son règne annonçait le fameux déclin de l'Empire américain, on pourrait alors s'en réjouir et imaginer un monde meilleur à édifier sur les ruines que nous laissera ce gouvernement. Mais j'ai bien peur que les dégâts faits au tissu social ne se révèlent aussi importants que ceux provoqués par la nécrose qui s'empare du muscle cardiaque lorsqu'une artère y est bloquée depuis trop longtemps. En vérité, c'est l'Amérique tout entière qui a besoin d'une greffe de cœur si elle veut retrouver la paix. À l'approche de la Saint-Valentin, et puisque tout est si fragile, si incertain, je nous invite à faire un pied de nez aux petites et grandes tragédies qui nous guettent en prenant la main de quelqu'un qu'on aime. Regardons-nous dans les yeux et profitons de cet instant de vie. Puis, allons dehors ensemble observer la neige qui se transforme en paillettes sous les rayons de lune. Arrêtons-nous un instant pour écouter les rires des enfants en passant près d'une école. Laissons mijoter un plat réconfortant pour embaumer nos maisons. Mais par-dessus tout, ne laissons pas la peur, la haine et le mépris gruger nos cœurs. Devant la bêtise, brandissons notre empathie, notre amour et notre curiosité comme des armes. Nous ne vivrons pas plus vieux, mais nous vivrons mieux. Fin de cette chronique de Salomé Corbeau, titré « Le point final », publié dans Le Devoir du 11 février 2026.
Une année riche en découvertes, un texte de Mathieu Perrault, paru le 28 décembre 2025 dans la presse. La science fait des pas de géant. Plusieurs avancées réalisées en 2025 auront un impact important sur nos vies. En voici quelques-unes. Avancée contre la malaria. Il n'y a pas eu de nouveaux médicaments contre la malaria depuis 25 ans. Ganlum, un médicament fabriqué par Novartis, pourrait être le premier du millénaire. Au début de 2025, Novartis a annoncé qu'il était efficace contre des souches du parasite responsable de la malaria, Plasmodium falciparum, qui sont résistantes aux médicaments couramment utilisés actuellement, l'artémisinine. De plus, des chercheurs des Instituts nationaux de la santé, NIH, des États-Unis, ont annoncé en janvier dans Science l'identification d'une nouvelle catégorie de médicaments ciblant une partie très stable des cellules de ce protozoaire responsable de la mort de 600 000 personnes chaque année dans le monde. Cela réduira le risque d'antibiorésistance. Du nouveau pour la ménopause. La ménopause est l'un des domaines de la médecine où la recherche accuse le plus de retard, malgré le fait qu'elle touche la moitié de l'humanité. Mais cela est en train de changer. En 2025, un médicament soulageant les bouffées de chaleur, le Linquet, a été approuvé au Canada et dans plusieurs pays occidentaux. C'est le deuxième d'une nouvelle catégorie de traitements non hormonaux. Les recherches visant à prolonger la vie des ovaires s'intensifient. Ces organes, la source des ovules, sont aussi impliqués dans la production de l'œstrogène et de la progestérone, des hormones sexuelles qui sont utilisées dans l'hormonothérapie à la ménopause. Les ovaires envoient aussi d'autres signaux chimiques dans le corps et leur disparition joue un rôle dans les symptômes de la ménopause. Il pourrait donc être bénéfique de les faire fonctionner plus longtemps. L'une des recherches lancées ces dernières années pourrait retarder la ménopause de 7 ans. Éliminer les perfluorés dans les aquifères. La contamination d'aquifères, là où se retrouve l'eau souterraine, par les perfluorés, PFAS, ces produits chimiques utilisés pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisante et anti-incendie, a fait les manchettes cette année, notamment à Sainte-Cécile de Milton, en Estrie, et à la baie au Saguenay. Pour les éliminer, il faut filtrer l'eau avec du charbon activé, puis détruire les résidus par incinération. Mais une société américaine, Ramwell, teste depuis quelques années un réacteur qui détruit les perfluorés directement dans les aquifères, sans nécessité de pompage ni de coûteuse incinération spécialisée. Le réacteur de Ramwell crée des bulles avec des ultrasons, ce qui attire les perfluorés qui sont ensuite détruits par des températures très hautes. La première comète interstellaire, Oumuamua, a pu être observable seulement pendant 3 mois en 2017. À cause de la faible quantité de données recueillies, un célèbre astrophysicien, Avi Loeb, de l'Université Harvard, a affirmé dans un article scientifique qu'il pouvait s'agir d'un vaisseau extraterrestre à cause de ses mouvements difficiles à expliquer. Une opinion qui a suscité de nombreuses critiques. En 2025, pour Atlas, troisième comète en provenance de l'extérieur de notre système solaire, les astrophysiciens étaient prêts. Elle a été examinée sous toutes ses coutures depuis sa découverte au début de l'été 2025. Elle sera visible jusqu'à l'été 2026, ce qui permettra d'accumuler des données réelles sur la composition de la Voie lactée. Une demi-douzaine de sondes spatiales, dont des orbiteurs martiens, ont pu observer Atlas. Accélérer le traitement des traumatismes crâniens. L'intelligence artificielle promet de révolutionner la médecine. À l'Université de Toronto, l'IA permet d'accélérer le traitement des traumatismes crâniens. Quand un patient avec un traumatisme crânien est examiné en imagerie médicale, le système ASSIS-TBI utilise l'IA pour déterminer si son cas doit être évalué par un neurochirurgien. Cela permet à l'urgentologue de ne pas attendre l'avis d'un radiologiste avant de contacter un neurochirurgien. Cela devrait permettre d'accélérer les traitements dans les hôpitaux régionaux et de prioriser les cas les plus urgents, selon les chercheurs de l'Université de Toronto, qui évaluent s'il faut étendre ASSIS-TBI à toute la province. Les traumatismes crâniens sont la première cause de décès chez les jeunes hommes au Canada. Seuls 20% des cas auront besoin d'être opérés. La révolution géothermique. En décembre 2025, Énergir a lancé une nouvelle filiale de géothermie. Il s'agit d'une preuve concrète que la baisse des coûts de cette technologie verte est bien réelle. La géothermie consiste à explorer la chaleur du sol en profondeur pour chauffer une maison. Signe du sérieux du boom géothermique, certaines entreprises parmi les plus actives dans ce domaine sont nées dans des régions productrices de pétrole. La firme albertaine Ivor a reçu des subventions allemandes et canadiennes pour des projets pilotes pour sa technologie de géothermie en boucle fermée. Dépister l'asthme dans la couche de bébé. Des signes de troubles du système immunitaire, comme une allergie ou l'asthme, sont visibles dans les selles dès la première année de vie. Cette découverte pourrait mener à des traitements précoces et de nouvelles méthodes de prévention. Les chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco ont détecté dans le microbiote intestinal de bébés susceptibles d'avoir plus tard de l'asthme une signature biologique caractéristique. Il s'agit d'une molécule liée à l'inflammation chronique, ce qui peut signifier que les bactéries du microbiote ont été exposées à un dérèglement du système immunitaire. Le microbiote intestinal désigne l'ensemble des microbes des intestins. On peut en déterminer la composition en analysant les selles. L'hydrogène vraiment propre. L'hydrogène, un gaz essentiel à de nombreuses industries, dont celle des engrais, est actuellement produit à partir de gaz naturel. Le processus émet des gaz à effet de serre et est énergivore. C'est pourquoi plusieurs entreprises tentent d'améliorer la production d'hydrogène vert obtenu par hydrolyse de l'eau avec de l'énergie renouvelable. Une nouvelle avenue se présente, les gisements d'hydrogène gazeux. Le premier gisement a été découvert au Mali par une société albertaine qui a lancé la production en 2014 et veut maintenant trouver des gisements au Canada. La Commission géologique américaine a publié cette année une étude estimant à 1 000 milliards de tonnes les gisements exploitables d'hydrogène gazeux de la planète. En 2024, dans la revue Frontiers in Geochemistry, des chercheurs de l'INRS estimaient que le sous-sol québécois contenait des quantités commerciales d'hydrogène gazeux. C'était une année riche en découvertes. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 28 décembre 2025 dans la presse.
Éliminer l'acné grâce à des vaccins? Un texte de Pauline Gravel, paru le 14 octobre 2025 dans Le Devoir. De tout nouveau traitement sont actuellement expérimentés pour soigner, voire prévenir l'acné. Il s'agit de vaccins qui visent les bactéries qui contribuent au développement de cette affection de la peau dont sont victimes 80 % des adolescents et 40 % de la population générale. Le principal facteur qui prédispose au développement de l'acné est la génétique de la personne. À peu près 80 % du risque de faire de l'acné vient de notre génétique. À ce risque génétique s'ajoutent des facteurs hormonaux et parfois des facteurs mécaniques, comme le port d'un casque qui obstrue les pores de la peau. Ou encore, l'application de certains produits cosmétiques, résume la dermatologue Hélène Veillette, qui est professeure de clinique au CHU de Québec, Université Laval. L'acné se développe lorsque les pores à la surface de la peau deviennent encombrés par une accumulation de kératine, cette protéine présente à la surface de l'épiderme et qui contribue notamment à l'imperméabiliser. Concomitamment, les changements hormonaux qui surviennent à l'adolescence induisent souvent une production excessive de sébum par les glandes sébacées sises au fond des follicules pileux et qui servent à hydrater la peau. Or, comme l'ouverture des follicules vers l'extérieur est déjà engorgée par la kératine, le sébum, produit en excès, ne réussit plus à sortir des follicules, ce qui contribue à obstruer les pores et à favoriser leur inflammation. De plus, l'abondance de sébum crée un milieu nutritif idéal à la bactérie Cutibacterium acnes, C.acnes, qui fait partie du microbiome normal de la peau de la plupart des personnes. Elle favorise aussi la prolifération de cette bactérie dans les follicules. Et en digérant le sébum, les bactéries génèrent des acides gras qui stimulent la sécrétion des cytokines pro-inflammatoires par le système immunitaire. Or, c'est l'inflammation ainsi induite qui va engendrer des lésions typiques de l'acné, telles que des pustules, des nodules ou des kystes. Les dermatologues disposent actuellement de divers traitements. Face à un patient qui a une acné plutôt légère, on va commencer par les traitements topiques qui ont plusieurs mécanismes d'action différents. Certains vont agir principalement sur la kératinisation telle que les rétinoïdes topiques. D'autres visent la bactérie C. acnes, comme le peroxyde de benzoyl et la clindamycine, explique la dermatologue. Si tout cela ne fonctionne pas, ou si le patient a une acné plus sévère, on va se tourner vers les médicaments oraux parmi lesquels figure la grande classe des antibiotiques ingérés par la bouche comme l'aminocycline et la doxycycline, qui ont un double effet antimicrobien et anti-inflammatoire sur la peau, poursuit-elle. Il y a aussi une isotrétinoïne, du nom commercial Accutane, qui induit la diminution de la production de sébum, mais qui a un peu plus d'effets secondaires quand il est utilisé à haute dose. On a encore des besoins thérapeutiques, car il y a des gens qui ne toléreront pas la coutaine. Et il y a un groupe de patients pour lesquels on n'a pas grand-chose à offrir, affirme la professeure. De plus, dès qu'on cesse les traitements topiques ou les antibiotiques, l'acné récidive assez souvent. Et il est toujours délicat de poursuivre des traitements antibiotiques en raison de la résistance aux antibiotiques. Les vaccins seront donc bienvenus. On a besoin d'autres outils, c'est certain, lance-t-elle. La société Sanofi Pasteur a lancé en avril 2024 un essai clinique de phase 1 et 2 qui a pour objectif d'évaluer l'innocuité, l'efficacité et l'immunogénicité, c'est-à-dire la capacité à déclencher une réponse immunitaire, dont la production d'anticorps, de 3 doses différentes d'un vaccin à ARN messager, ARNM, visant la bactérie C. acnes. Cet essai, qui comportera 3 injections intramusculaires, doit compter 260 personnes âgées de 18 à 45 ans qui sont atteintes d'une acné modérée à sévère. Un deuxième essai clinique de phase 1 et 2, mené par Sanofi Pasteur, a débuté en juillet 2025. Celui-ci a pour but d'évaluer encore une fois l'innocuité, l'efficacité et l'immunogénicité de deux injections du vaccin ARN-M chez 120 personnes présentant une acné légère. Dans un communiqué de presse du 22 novembre 2024, Jean-François Toussaint, directeur de la recherche et du développement des vaccins chez Sanofi, affirmait que ces vaccins visaient à rétablir l'équilibre entre les différents micro-organismes du microbiome cutané et ce, en se servant de la force du système immunitaire. Ce ne sont que des études de phase 1 et 2. À la lumière des résultats obtenus, il faudra évaluer le coût-bénéfice de ce vaccin, prévient la docteur Veillette. Le docteur Georges Liu, de l'Université de Californie à San Diego, travaille pour sa part sur un vaccin qui serait plutôt préventif que curatif. Son vaccin se compose de fragments d'une enzyme appelée hyaluronidase que la bactérie C. acnes sécrète. Cette enzyme détruit l'acide hyaluronique que la peau produit pour assurer sa protection. Cette destruction permet alors aux bactéries de proliférer davantage. L'injection de ce vaccin à des souris, chez lesquelles on avait reproduit de la peau humaine colonisée par la bactérie C. acnes, a empêché l'apparition d'acné. Cette stratégie, qui vise indirectement la bactérie en induisant la production d'anticorps qui iront neutraliser l'enzyme hyaluronidase sécrétée par la bactérie, s'annonce prometteuse. Reste maintenant à la tester chez l'humain. Avec un tel vaccin, on pourrait donc prévenir l'acné chez quelqu'un qui est à haut risque ou dès qu'apparaît un peu d'acné. Le vaccin éviterait alors que l'acné empire et que se forment des cicatrices, fait remarquer la docteure Veillette. Ces vaccins ne régleront probablement pas tous les types d'acné, mais il devrait aider un grand nombre de patients chez lesquels la C. acnes est centrale dans la physiopathologie de leur acné, croit-elle. C'était « Éliminer l'acné grâce à des vaccins », un texte de Pauline Gravel, paru le 14 octobre 2025 dans « Le Devoir ».